France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui,
Fatima Wazak, autrice et militante écologiste et antiraciste.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
On ne peut pas demander aux habitants des quartiers populaires de s'impliquer contre ce qui détruit la terre ici et en même temps leur rappeler sans cesse qu'ils n'y sont pas chez eux à coup de discrimination raciale massive dans tous les espaces sociaux, de contrôles policiers racistes, de difficultés à obtenir des papiers ou d'islamophobie plus ou moins assumée. On n'en est pas en position de protéger une terre en danger là où on est soi-même écrasé et sous contrôle permanent. Dans les quartiers populaires, la question écologique ne peut pas être celle de la protection de la terre, de l'environnement, de la nature, du vivant. Elle doit être celle de sa libération. La mobilisation est aujourd'hui relativement faible au regard d'une urgence climatique de plus en plus palpable. Elle est en effet composée essentiellement de populations issues de classes moyennes et supérieures blanches. C'est un mouvement qui n'est pas populaire, en tout cas pas assez au regard de la gravité de la situation. C'est leur grande faiblesse. Certes, sur les pancartes, on en appelle à la révolution, mais un tel mouvement social dans un pays qui compte des millions de personnes de classes populaires et non blanches peut-il vraiment engendrer une révolution, du moins une révolution qui irait dans le sens de la justice sociale et environnementale. La mobilisation à travers les campagnes de sensibilisation ne marche pas, et cela se voit sur les photos des manifestations. Alors comme les médias, les ONG et les réseaux sociaux exercent une pression pour plus de diversité, au lieu de se poser des questions de fond, le mouvement climat va à défaut d'élargir le front, le décorer de quelques corps non blancs. Il cherche ainsi à montrer que le projet n'est pas raciste, qu'il se veut dans l'intérêt de toutes et tous, mais dans la mesure où seule la classe moyenne supérieure blanche travaille au projet, où il n'y a pas de réelle prise en compte du racisme structurel, où les enjeux écologiques des quartiers populaires sont folklorisés, cette combine décorative ne trompe évidemment personne. Bonjour Fatima Wazak.
Bonjour.
Ces lignes sont extraites de votre ouvrage, c'est votre plume pour une écologie pirate qui était publiée il y a 2 ans aux éditions de La Découverte. La semaine dernière, vous avez lancé une nouvelle collection au Lien qui libère pour prendre à bras-le-corps avec un collectif d'autrices et d'auteurs les questions d'écologie et d'antiracisme. Vous qui défendez depuis de nombreuses années une écologie populaire de la libération, vous nous direz de quoi il s'agit. On va en parler au cours de notre discussion et c'est l'occasion de revenir donc sur votre parcours de militante pirate, vous qui êtes née le 5 avril 1976 au Maroc. Et voici le petit journal de votre naissance, avec les archives préparées par Isabelle Forendu, documentaliste à l'INA.
Orange mécanique sur la Côte d'Azur, des voyous saccagent 2 boîtes de nuit, 1 blessé grave. Au micro de France Inter, Edgar Faure déclare qu'il va proposer au Premier ministre une concertation avec l'opposition sur la hausse des prix.
J'ai essayé d'analyser quels étaient les sports qui convenaient le mieux à la femme. Et bien il y en a un qui est au-dessus de tous les autres, c'est la natation. Une femme, vous la synthétisez par une figure qui est plus complexe, par un hexagone avec le maximum de largeur au niveau du bassin. Et vous trouvez là une image idéale pour pénétrer dans l'eau et pour bien nager. Et puis en plus, il y a des caractères physiologiques de la femme, notamment son tissu adipeux, qui est beaucoup plus développé que celui de l'homme, qui lui assure une flottaison dans cet élément qui n'est pas le nôtre, dans cet élément liquide.
Des membres du Parti communiste ont envahi l'aéroport Charles de Gaulle. Il ne s'agissait pas pour eux de défendre des revendications matérielles, mais plutôt d'exprimer, haut et fort, le mécontentement du Parti communiste français devant l'hostilité américaine pour Concorde. Un slogan bien simple, pas de Boeing à Paris si Concorde n'est pas admis très rapidement aux États-Unis. Les Américains entendront peut-être le message.
Et Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. Et 2 fois par an, des milliers de ces petites bêtes se font écraser en traversant. Les responsables de l'environnement en Allemagne ont décidé d'arrêter le massacre. De chaque côté de l'autoroute, ils ont installé des filets, ont fait traverser la route à ces charmants batraciens en les mettant dans des peignes. Tout le monde est content, les grenouilles bien sûr, les automobilistes qui n'ont plus d'accidents, et puis les amoureux de la nature, une nature qu'il faut parfois savoir aider.
Fatima Wassak, le journal de votre naissance, 5 avril 1976. Qu'est-ce que ça vous inspire? La natation pour les femmes, le Concorde, les grenouilles. Qu'est-ce que vous retenez?
Oh, le fait de parler de la femme au singulier, vive MeToo, parce que quand même, voilà, aujourd'hui, on parle des femmes au pluriel. Puis manque l'année 76, c'est l'année du dragon. Voilà, ça manque un petit peu à ce journal.
C'est quoi? C'est le signe astrologique chinois, c'est
absolument.
Ça vous y croyez, vous?
Ah, mais à fond. Ah bon, j'adore le dragon, et quand j'ai découvert que l'année 76, c'était l'année du dragon, j'étais pas peu fière.
Pourquoi? Ça vous ressemble?
Ah, le dragon, oui, c'est même une figure que j'utilise pour dire la puissance des mers, le feu qu'on crache pour protéger les enfants, et ouais, c'est une figure qui est bien.
Vert dragon, hein, on en reparlera tout à l'heure, évidemment, que vous avez créé à Bagnolet. Vous qui naissez donc au Maroc, dans quelle région exactement?
Alors, dans une très belle région, le Rif, donc au nord du Maroc, une région qui est connue pour être résistante, hostile aux autorités, réfractaire.
Vous pouvez nous le reciter dans l'histoire, justement?
Oui. Alors, le Rif, c'est une région qui a mené la première, ou en tout cas l'une des premières, guerres anticoloniales, et face à l'Espagne et la France.
C'était dans les années 20.
Absolument, ouais. Face à Pétain et Franco, voilà. C'est pas rien. Mmh. Et il y a une guerre qui a été menée en 1921, effectivement. Il y a une bataille, la bataille d'Annual, qui a été gagnée. Et c'est pas rien à l'époque, hein, une guerre anticoloniale qu'on gagne. Il y a une République du Rif de 1921 jusqu'à 1926, menée par Abdelkrim el-Khattabi, qui est une grande figure anticolonialiste. Reconnu dans le monde entier. Et c'est resté, en fait, dans la culture du Rif, cette résistance, cette volonté de ne pas être sous-humanisé, de ne pas être considéré comme des colonisés.
Mais de quelle façon vous avez été imprégné par cette histoire, alors?
Ah, alors depuis toujours, ça fait partie en fait de ce qu'on nous apprend dans cette communauté rifaine en Europe, dans la diaspora. La langue déjà, nous on parle pas l'arabe, on parle cette langue tamazirte. Alors on pose dès le plus jeune âge la question de cette langue et on nous explique, voilà, le Rif c'est particulier au Maroc, c'est particulier en Afrique du Nord, c'est une langue, alors qu'on appelle en France berbère, et elle a une histoire, cette langue, elle se situe donc comme une langue minoritaire. Donc déjà, ça dit beaucoup d'une forme de marginalité dans laquelle on est. Et puis une culture, une transmission, par exemple, Abdelkrim el-Khattabi, moi on m'en a parlé depuis le plus jeune âge, alors même qu'aujourd'hui encore au Maroc, il n'y a pas de rue, il n'y a pas d'avenue Abdelkrim el-Khattabi. Donc ça a été transmis.
Mais vous avez quitté le Maroc très vite en réalité.
Bébé.
Hein. Ouais, c'est ça. Vous êtes arrivé quand en France alors?
En 77.
Oui, donc vous aviez
dans le cadre du regroupement familial, effectivement. Mais le Rif nous a accompagnés.
C'est vrai.
Ah oui, la communauté rifaine, elle est connue pour ça.
Donc
en France, en Belgique.
Cet esprit de résistance, en fait, c'est ça qui vous a accompagné?
Alors cet esprit de résistance et cet esprit, j'ose le mot, communautaire. C'est-à-dire que vraiment, les rifains sont connus pour, parmi les Nord-Africains et même les Africains, pour, lorsqu'ils s'installent en Europe, ils s'installent avec leur langue, je l'ai dit, avec leur nourriture, avec leur organisation sociale, avec leurs vêtements, avec... il y a quelque chose comme ça qui se reconstitue de communautaire, et comme pour survivre, en fait, à l'accueil qui n'a pas toujours été très accueillant, justement. Et donc, il y a effectivement ce sentiment d'appartenir à une région résistante, mais il y a aussi cette organisation très très communautaire ensuite en Europe.
Est-ce qu'on peut dire que c'est quasiment ce qui a fait le socle de votre engagement futur, cette histoire rifaine?
Ah oui, absolument. Cette forme de dignité, je pense. Moi, en tout cas, j'y trouve beaucoup de fierté dans cette histoire. Je pense qu'elle m'a construite et on en a besoin. On a besoin de construire dans quelque chose qui est valorisant. La figure d'Abdelkrim el-Khattabi, par exemple, c'est une figure qui nous... Oui, qui nous porte et qui nous rend fiers. Ça permet, je pense, quand on vit en France, en Europe, et qu'on est non-blanc, qu'on est descendant de cette immigration postcoloniale, ça permet de tenir debout, ça permet de ne pas se laisser faire, et puis de militer et de continuer à se battre.
Donc vous arrivez en France dans le cadre, vous le disiez, du regroupement familial, c'est-à-dire vous retrouvez qui en fait?
Alors mon père, qui est donc ouvrier, voilà, situation classique pour les immigrés à l'époque, ouvrier à l'usine.
Il est arrivé combien de temps avant vous alors?
15 ans avant. Il a quitté Alger, parce que alors lui vivait à l'époque avec sa famille en Algérie. Il a quitté Alger en 61. Et il a vécu dans les foyers Sonacotra. Et il ne s'est installé en HLM qu'à l'occasion de notre venue, ma mère, ma grande sœur et moi.
Dans quelle ville?
À Lille, Sud. Ouais. Autour d'une usine. Voilà, c'est vraiment classique. Hein. C'est les immigrés qu'on fait venir. Alors d'ailleurs, ce qui a participé aussi à cet esprit communautaire, c'est aussi la France et les politiques et les pouvoirs publics français qui ont fait venir d'Afrique, en fait, des communautés. On a installé autour des usines des gens qui venaient à peu près des mêmes villages.
Et ces personnes du RIF, vous les retrouvez à Lille, hein?
Ah ouais, absolument. Ouais. C'est vraiment le quartier où j'ai grandi. C'est un quartier où il y avait énormément de Marocains et particulièrement des villages d'où je viens dans le RIF. Ouais.
Quel souvenir vous gardez, en tout cas, peut-être pour votre mère aussi et vos sœurs, de ce départ du Maroc, en fait, pour arriver dans une ville qui est Lille, au milieu de bâtiments HLM? C'est quand même un choc culturel, non?
Alors, pour moi,
vous étiez
absolument
petite, hein.
Pas. Moi, j'avais un an. Donc, moi, j'ai grandi dans le béton.
Mais pour votre mère, par exemple?
Alors, pour ma mère, ça a été assez horrible. Elle fait partie de ces femmes, on le sait peu, elle fait partie de ces femmes qui ont séjourné en hôpital psychiatrique à l'arrivée, en fait. Parce que, alors, elle quitte les montagnes du RIF, hein. Faut voir le RIF. Hein. C'est une région, j'ai dit tout à l'heure, magnifique. Je veux dire, c'est... Et puis, alors, dans le RIF, il y a une particularité, c'est que les maisons sont ouvertes en leur centre. Et on voit le soleil se lever, le soleil se coucher. On devine l'heure, justement, avec l'endroit où se trouve le soleil, aussi avec le son du muezzin qui fait l'appel à la prière. Donc, elle quitte ça, justement, cette circulation dans l'espace public. Alors, c'est une région musulmane, mais les femmes sont à l'extérieur, toujours, en fait, encore une fois, même dans leur maison. Et elles se retrouvent en HLM, où il n'y a jamais de place. En plus, à une époque où les femmes ne sortent pas dans l'espace public. Et donc, oui, elle a été en dépression et elle a passé un mauvais quart d'heure à l'hôpital psychiatrique.
Ça a duré combien de temps, cet internement?
Plusieurs mois.
Plusieurs mois.
On n'en parle pas énormément parce que ça a été une période douloureuse pour elle. Mmh. Elle commence un petit peu plus à en parler aujourd'hui. Mais pour en avoir discuté avec des médecins qui était là à l'époque et qui, voilà, je sais que c'est pas la seule, en fait, qui a vécu
l'exil. Donc beaucoup de femmes de l'immigration ont vécu ça.
Ben oui. Alors, on ne sait pas parce qu'on a l'impression comme ça que ce sont des femmes qui quittent un pays obscurantiste où les femmes n'ont pas de droits, etc., et qui arrivent vers cette France, ce pays des droits des femmes, et où elles vont s'émanciper, elles vont se libérer. Et en fait, c'est l'exact contraire, et notamment, encore une fois, sur cette idée de circuler dans l'espace public. Elles quittent un espace où elles circulent, encore une fois, elles sont dans la nature, et elles arrivent vraiment dans le béton, emmurées.
Fatima Ouessak, donc votre père est ouvrier dans cette usine, justement, qui est au milieu
ouvrier
de cette cité.
Ouvrier spécialisé.
Spécialisé en quoi?
Alors, on les appelle ouvriers spécialisés pour les distinguer des ouvriers qualifiés. Mm-hmm. Les ouvriers spécialisés, en réalité, ce sont des immigrés.
Voilà. Et il est aussi syndicaliste. Hein.
Oh ouais,
donc, il y a aussi une forme d'engagement chez votre père.
Oh ouais. Alors, même que, il est immigré, il a à l'époque une carte de séjour. Alors, au début, c'est un an. Ensuite, il aura la carte de 10 ans avec Mitterrand, les années 80. Mais effectivement, il a toujours tenu à défendre ses droits et il a toujours tenu à les défendre avec les autres, en fait. Il y a justement cet esprit très communautaire où, quand on cherche à améliorer ses conditions matérielles d'existence, on le fait avec les camarades. Mmh. Oui, on a grandi là-dedans.
Et ça s'est bien passé pour lui, le syndicalisme?
Non. Non, parce que justement, c'est un espace syndical où les non-blancs ne sont pas traités à égalité avec les blancs. Il y a un racisme, il n'y a pas de parenthèse enchantée dans le milieu syndical, en fait. On retrouve la structuration raciste qui existe dans la classe ouvrière et à l'usine, on la retrouve au sein du syndicat. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire concernant la CGT.
C'est toujours le cas aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. Alors après, évidemment, il y a eu des luttes qui ont été menées par le mouvement des travailleurs arabes, par différentes organisations, justement, qui se sont détachées des syndicats majoritaires et qui ont lutté pour faire reconnaître ces droits et l'égale dignité humaine entre blancs, non-blancs, entre français et étrangers, précisément venant de cette immigration post-coloniale. Donc oui, évidemment que ça a avancé, mais tout n'est pas réglé.
Voilà, le décor est posé, donc on a ce contexte familial qui est important, évidemment. Et alors, dans ce contexte-là, la jeune Fatima Ouessak, elle rêve de quoi? Elle a envie de quoi? Est-ce qu'elle est bonne élève? Qu'est-ce qu'elle fait à l'école?
Bon élève, parce que, mais comme tous les enfants, comme beaucoup de, je vais pas complètement généraliser, mais comme beaucoup d'enfants de l'immigration, et ça c'est quelque chose qui est documenté, qu'on sait aujourd'hui, les immigrés investissent beaucoup l'école. Et alors, ma mère disait, on n'a pas traversé les océans pour que vous ayez de mauvaises notes à l'école. Alors, elle-même n'a jamais été à l'école, mais il y avait cette idée que vraiment, si on se sacrifie, si on quitte nos terres, et j'ai parlé tout à l'heure de cette souffrance, de cette douleur de l'exil, et ma mère l'a payé cher, c'est pas pour que vous soyez des cancres au fond de la classe.
Donc il y a une petite pression quand même pour les enfants aussi.
Une pression horrible. Ouais. Ah non, mais c'est vraiment, nous on partait avec ça à l'école, il fallait avoir les meilleures notes. Ouais. Et c'est 20 sur 20, il n'y avait pas d'histoire de 18, ouais. 19, c'est 20 sur 20. J'avoue que je transmets ça aujourd'hui avec mes enfants, et, parce qu'il y a cette idée, oui, si on se bat, c'est que, voilà. Et alors même si on devine que l'école, c'est un lieu aussi de reproduction sociale, il y a quand même ce surinvestissement, donc, et en particulier, j'insiste là-dessus, vis-à-vis des filles. Il y a vraiment, malgré les représentations qui entourent comme ça ces personnes musulmanes, souvent immigrées, etc., en fait, en réalité, on pousse les filles à réussir à l'école.
Donc on est plus indulgent aussi avec les garçons ?
Est-ce qu'on est plus indulgent ? En tout cas, il y a cette... Non, je crois pas qu'il y a plus indulgence. En tout cas, il y a la même pression. Voilà, c'est-à-dire que garçon ou fille, il faut se battre à l'école, il faut réussir.
Vous rêviez à quoi ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans ce HLM lillois ?
Ouais, alors moi, c'est les années 80. Et donc, comme tous les enfants des années 80, je rêvais à de très très belles choses. Malheureusement, c'est, je crois, pas vraiment le cas aujourd'hui. Moi, j'avais l'impression que je pouvais tout faire. Et donc, c'était astronaute, biologiste, poétesse, poète, je crois, à l'époque, je ne disais pas encore poétesse. Enfin, il y avait vraiment... Voilà, l'horizon était très, très large et tout était possible, quoi.
Ah, ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est dégagé de tout ça ?
Alors, je crois qu'à 18 ans, justement, il n'y a rien qui s'est dégagé. Et je voulais faire 15 000 trucs. Et c'était vraiment au petit bonheur la chance. Bon, je suis partie vers des études de sciences politiques, mais vraiment, c'était,
encore une fois,
au petit bonheur la chance.
Comment vous tombez à Sciences
Po ? Oui, mais parce que justement, je crois qu'il y a ce truc où vraiment, on est capable de tout faire. Et qu'il y a un concours, on va le passer. Je fréquentais le lycée qui était juste à côté de l'IEP Lille, à l'époque. Donc, le lycée Fénelon, en centre-ville de Lille.
L'Institut d'études politiques.
Voilà, et puis il y avait une petite pancarte avec, voilà, si vous voulez passer le concours, voilà les dates, etc. Et voilà, j'ai passé le concours et je l'ai eu, quoi.
Ouais. Et quel souvenir vous gardez de Sciences Po ?
Souvenir horrible.
Alors
peut-être que je reconstruis aussi beaucoup, c'est normal, parce que j'ai milité, que je militante antiraciste que je suis. Oui, évidemment que c'est aussi avec cette grille d'analyse que je vais regarder ce qui s'est passé pendant ces années à Sciences Po.
Mais vous étiez déjà militante à Sciences Po ou pas ?
Non, alors moi je fréquentais des associations à l'époque, mais vraiment de l'immigration et des quartiers, et c'était une vie parallèle à Sciences Po. À Sciences Po, je l'ai déjà raconté, mais il y avait par exemple un collectif de soutien aux sans-papiers. Et il y avait des sans-papiers chez moi. C'est-à-dire que nous, en fait, dans ma famille, on faisait passer des sans-papiers. Bon, je peux le dire maintenant, je crois qu'il y a prescription. Nous, on était dans la pure illégalité. Il y avait toujours un sans-papier dans le camion quand on revenait du Maroc. Un oncle, une cousine, bon. Et donc, nous, on vivait ça. L'aide, la solidarité avec les sans-papiers. Mais alors, moi, ce collectif de sans-papiers à Sciences Po, j'ai toujours eu l'impression que ça n'avait rien à voir avec ce que je pouvais vivre à la maison. Donc, c'est pas à Sciences Po que je me suis politisée.
Et le racisme, vous l'avez vécu à Sciences Po ou pas ?
Oui, de manière assez violente. Aussi parce que à l'IEP Lille, c'était vraiment les premières années de cette IEP. Je crois que je suis sur la deuxième promo. Je crois que j'étais la seule personne non blanche, racisée, musulmane.
Ouais.
Et alors, les discours à l'époque venant des profs, je me souviens d'un prof de droit constitutionnel qui se moquait des gens qui faisaient le ramadan, qui disait, mais vraiment, alors ces Arabes, ils ont inventé le zéro, mais ils se sont enfermés dedans. Enfin, voilà, ça c'était en cours. Voilà. Et ça passait crème, personne, ne hurler dans l'amphi. Et on peut comparer avec aujourd'hui. Je dis, aujourd'hui, ça n'a vraiment rien à voir. Et donc, c'est aussi avec ces lunettes d'aujourd'hui que je lis ce qui s'est passé à l'époque en me disant, mais vraiment, c'était horrible. Ouais.
Fatima Ouessac, on va poursuivre la route sur le chemin de votre engagement. Vous êtes aujourd'hui notre invité au carré.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Mais déjà, parce que l'avenir tout court passe par la question climatique. Et précisément davantage dans les quartiers populaires, parce qu'il y a une survulnérabilité quand on prend les chiffres. Tu prends la canicule 2003, 19 000 morts, c'est Val-de-Marne, c'est Saint-Denis. Enfin, c'est vraiment dans ces territoires qu'il y a une concentration des vulnérabilités. Donc forcément, l'avenir, et même plus que ça, même le présent actuellement, est compliqué et socialement. La question climatique, quelque part, c'est pour nous, dans le climat, aussi un prétexte pour mettre en avant et mettre sur la table le fait qu'il y a des trucs qu'on a banalisés et qui sont horribles.
La voix de Feriz Barkat, qui a cofondé l'association Banlieue Climat. Fatima Ouassak, vous êtes notre invitée au carré, alors que vient de sortir, on va en parler tout à l'heure, Terre et Liberté, manifeste antiraciste pour une écologie de la libération, au lien qui libère. Feriz Barkat, vous avez un point commun ensemble, est-ce que vous savez lequel c'est? C'est un manga, figurez-vous.
Ah, il est fan de manga?
Ouais,
ah ouais,
et One Piece.
Oh,
et
oui,
One,
bah bien sûr.
Et One Piece,
oh, oui,
en particulier.
J'imagine Naruto, vu son âge, et puis, oh, oui, ça, ça m'étonne.
Parce que vous adorez aussi ce manga-là, c'est ça?
Ah, One Piece, mais j'en ai carrément fait un livre.
Ah, ouais.
Bah oui, l'écologie pirate. En fait, le symbole autour du pirate, la piraterie,
oui,
vient notamment de One Piece.
Ouais. Ouais, ça vous a inspiré. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette jeune génération? Parce que là, c'est votre petit frère, hein,
ouais,
Feriz Barkat.
Carrément. Oh, oui, puis, puisqu'il dit est très, très juste sur la nécessité dans les luttes des quartiers populaires, les luttes de l'immigration, en réalité aussi l'antiracisme, de prendre en considération la question climatique. Et il y a du boulot. Et moi, je fais partie aussi de ces gens on peut pas aujourd'hui envisager, effectivement, comme il le dit très bien, notre présent et notre avenir, sans prendre en considération les conséquences du dérèglement climatique sur nos vies, sur la santé de nos enfants, sur nos conditions matérielles d'existence. Ça, c'est une chose. Alors, ce qu'il faut dire aussi en parallèle, c'est que dans le champ de l'écologie, il faut prendre aussi en considération la question raciale, la question de l'islamophobie, la question coloniale, la question postcoloniale. Je veux dire, ça va dans les deux sens.
C'est-à-dire que c'est les mêmes luttes, au fond, qui sont à défendre?
Absolument. Je pense qu'on va gagner des deux côtés à partir du moment où, dans ces deux espaces, donc que sont l'antiracisme d'un côté, l'écologie et précisément l'écologie politique de l'autre, on va gagner à se nourrir mutuellement de nos luttes, de nos héritages, de nos pensées, de nos réflexions, de nos analyses, de nos débats, etc. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à faire front commun.
Et ça, on n'arrive pas à le faire pour l'instant?
Alors, il y a des choses qui avancent. Moi, je préfère voir le verre à moitié plein. Moi, je peux comparer, sur 10 ans, en disant, si, ça c'est sûr qu'il y a eu une évolution. On voit bien aujourd'hui, alors, vous citiez tout à l'heure ce passage dans l'écologie pirate concernant le mouvement climat, moi je peux témoigner aujourd'hui que déjà en 2 ans, on a avancé. C'est-à-dire que dans ces organisations du mouvement climat, il y a une prise en considération bien plus importante, justement, de la question raciale, de la question de l'islamophobie, de la question coloniale.
Mais
la
critique a fait avancer les choses. Parce
absolument,
que vous avez été très sévère dans ce que vous disiez.
Oui, mais...
Et du coup, c'était comme un électrochoc qui a servi aussi...
Absolument.
Élargir la base.
Avec d'autres, je pense notamment au livre Écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand, je pense à tous ces travaux, à le fait de taper du poing sur la table aussi, effectivement, quand on vient, c'est pas avec le dos de la cuillère, ça c'est vrai. Mais on vient toujours avec une critique constructive, je pense, et c'est vraiment parce qu'on y croit à l'écologie, on la laisse pas tomber. On pourrait venir en disant non, on va critiquer de manière à dire mais vraiment l'écologie, il faut mettre à la poubelle, c'est pas le cas. Là, on vient en disant mais vraiment, il faut changer. Il faut s'ouvrir, il faut déverrouiller, il faut débattre. Moi, je suis à fond pour les désaccords, la controverse, etc. Je pense que c'est comme ça qu'on avance. Parce que l'écologie, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et comme l'a dit Feriz Barkat tout à l'heure, oui, notamment pour les quartiers populaires, pour les classes populaires, pour les espaces marginalisés. Je pense que c'est par la critique qu'on va avancer.
Est-ce qu'on est dans une société où on arrive encore à débattre, d'ailleurs, aujourd'hui, réellement ou pas?
Non. Et vraiment pas
sans,
à gauche.
Sans se détester.
Et pas dans l'écologie, ouais. C'est ça. Moi, je pense que c'est ce qui nous tue dans l'écologie politique.
Encore moins à gauche, hein.
Ouais, mais bien sûr. Ah non, mais il y a beaucoup plus de possibilités de débattre aujourd'hui avec la droite et l'extrême droite, beaucoup plus que dans le champ de la gauche et dans le champ de l'écologie politique, où j'ai l'impression qu'il y a un peu une panique en disant « on devient minoritaire ». Il y a une hégémonie culturelle qui pousse à l'extrême droite. On devient minoritaire et donc il faut arrondir les angles, il faut taire les controverses, les désaccords, les débats, on les met sous la table et puis on fait comme si on était tous sur le même bateau. Il y a une seule planète, on ne voit pas la couleur de peau, tout ça nous divise, tout ça clive et donc il faut cacher tout ça. C'est ça qui nous tue en fait. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de débat, pas de désaccord, comme s'il n'y avait pas de rapport de domination. Moi je pense que c'est ça qu'il faut poser sur la table et il faut... accepter d'être en désaccord. Par exemple, pour ce qui concerne l'antiracisme, il y a un texte dans Terre et Liberté qui s'appelle « Queeriser l'antiracisme » qui est signé Myriam Bahafou. Moi, je me sens un petit peu visée par ce texte parce qu'effectivement, elle vise le champ d'antiracisme qu'on appelle l'antiracisme politique. mais je l'accueille. Je me dis, mais c'est bien, parce que depuis que j'ai lu son texte, quand elle nous l'a envoyé, bon, bah, ça a avancé dans ma petite tête. Je me suis dit, ah, mais oui, quand elle dit ça, effectivement, peut-être qu'il faut bouger ça. Il faut que dans le champ de l'écologie politique, on soit aussi capable de prendre en considération ces critiques.
Sauf que, en quoi la droite n'est pas mieux que la gauche, Fatima Ouassak? Parce que dans votre bouche, c'est un peu dissonant, quand même, hein, de l'entendre.
Non, mais je pense que la droite et l'extrême droite a tout intérêt à faire vivre le débat. Alors, évidemment, c'est pas mon camp, la droite et l'extrême droite, effectivement. C'est pas le camp de l'émancipation, c'est un camp réactionnaire. Je vais même assumer de dire que ce sont des ennemis politiques, évidemment. Mais je pense qu'ils ont compris, à droite et à l'extrême droite, la nécessité de donner à voir le débat, de faire vivre le débat pour monter en puissance et pour avancer. Ils se sentent tout puissants et voilà, il y a cette idée que voilà, on se permet même de discuter avec ces gens-là, avec qui nous ne sommes pas d'accord, et voilà, et ça nous fait avancer et on arrive à convaincre de cette manière-là et à montrer que nos arguments sont meilleurs.
Sauf que
à gauche, il y a pas cette assurance.
Est-ce que les sujets qui sont mis en débat justement régulièrement par la droite ou l'extrême droite, est-ce que ce sont selon vous des sujets qui méritent précisément le débat?
Absolument. La question des frontières, l'articulation qui est faite aujourd'hui à l'extrême droite entre climat, démographie, migration, où c'est très clair. Il y a crise climatique, c'est ce que dit aujourd'hui l'extrême droite. Il y a crise climatique, il y a donc risque que des migrants fuient leurs terres ravagées, que des personnes fuient leurs terres ravagées et qu'elles viennent se mettre à l'abri ici. Il faut absolument fermer les frontières et renforcer Frontex. Voilà, c'est ce que dit très clairement l'extrême droite. Encore une fois, c'est pas une bonne nouvelle. Et pour moi, c'est un discours qui est horrible, qui est réactionnaire, qui est raciste, etc. Mais ça se tient, je veux dire, et c'est logique, il y a une cohérence dans ce débat. Qu'est-ce que nous, on est capable de dire lorsqu'on articule climat, démographie et migration? Rien, parce que justement, on a peur de poser des questions qui fâchent. La liberté de circulation, justement, la question des frontières, la question de l'État-nation. Voilà, autant de questions aujourd'hui, vraiment à gauche, et encore une fois, dans l'écologie politique, là où normalement, on est censé parler à l'échelle de la planète, à l'échelle de l'humanité, on est censé penser le monde. Et on est là, rabougri dans nos petites histoires et dans quelque chose qui se veut consensuel, alors qu'en réalité, ça ne convainc
ça,
personne.
Ça, c'est un des ingrédients de la défaite, d'ailleurs, selon vous, pour la gauche, cette incapacité à débattre,
hein. Ah oui, absolument. Cette peur, en fait, cette peur du débat. Et encore une fois, c'est ce mauvais calcul qui consiste à dire on va faire comme si on était tous d'accord pour ne pas se diviser face à l'extrême droite et face à la droite, tout court. Et moi, je pense que c'est un mauvais calcul. Il faut revenir à cette tradition de gauche, de la controverse, du débat, même si ça va très très loin. C'est pas grave, en fait. Encore une fois, on peut... Moi, je trouve que d'ailleurs, chez les féministes, on s'en sort mieux. On est capable de se bagarrer comme ça toute une soirée, toute la nuit, et puis le lendemain matin, on est capable de se remettre d'accord. Donc j'aimerais bien voir ça dans l'écologie politique.
Et alors, même chose, est-ce que vous êtes sur la ligne de se dire qu'il faut parler à tout le monde, justement, sur les questions écologiques?
Alors non. En tout cas, pas comme le ferait quelqu'un comme Hugo Clément. En se rendant comme ça, la bouche en cœur chez Rassemblement National et Valeurs Actuelles, et en disant que l'écologie n'est ni de droite ni de gauche. Pour moi, de dire ni de droite ni de gauche, c'est de droite, voire même d'extrême droite.
Et pourtant, c'est une façon aussi d'avoir un dialogue, d'avoir un débat.
Alors précisément. Précisément non, parce que vous avez certainement remarqué que Hugo Clément ne se positionne absolument pas sur la question de l'antiracisme, par exemple, sur la question des frontières, sur la question de la migration, des migrations. Non, justement, il met ça sous le tapis et il va voir la droite et l'extrême droite en leur disant vraiment, l'écologie, on n'a pas besoin d'être antiraciste. On peut même être raciste, hein, mais simplement, voilà, il faut prendre en considération les questions environnementales, justement en faisant comme si on pouvait avancer sur des enjeux environnementaux sans prendre en considération le fait que toute une partie de l'humanité est sous-humanisée.
Mais ça veut dire que vous refusez le débat avec l'extrême droite dans des conditions pareilles, vous n'iriez pas, par exemple?
Non, absolument pas, mais jamais. Non, moi, l'extrême droite, comme l'a dit, je crois, Edwige Plenel, je la combat. Je débat pas avec elle. Il faut combattre l'extrême droite, mais la combattre avec des arguments qu'on a d'abord travaillé, avec, encore une fois, des désaccords, y compris stratégiques, etc., etc. Donc, moi, le débat, le désaccord, etc., évidemment, je les place dans notre camp, le camp de l'émancipation.
Pourquoi la place des maires a été centrale dans votre engagement politique, Fatima Ouassak?
Ah ben moi, très concrètement, c'est ce qui m'a fait entrer en écologie. Voilà, c'est l'amour que j'ai pour mes enfants et cette conscience que mes enfants ne s'en sortiront dans la vie que si les enfants du voisin et de la voisine s'en sortent aussi. Donc vraiment, moi, c'est ce qui m'a animée. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là.
C'était quoi la porte d'entrée, alors exactement ? L'événement qui a fait que la question des mères était centrale dans cette écologie ?
Ah bah la nourriture, donc pardon pour les clichés liés aux femmes et aux mères, mais oui, la nourriture des enfants, une question d'alternative végétarienne à la cantine, et donc une lutte, parce que ça n'a pas été simple, il a fallu se battre pour imposer cette alternative végétarienne dans les cantines scolaires de maternelle, dans cette ville bagnolée du 93, donc il a failli se bagarrer, mais en tout cas oui, je pense qu'on est nombreux à s'engager dans l'écologie, parce que on a des enfants et parce que voilà, on a envie de leur laisser un autre monde que ce monde bon qui s'annonce quand même assez nauséabond. Et oui, c'est pour ça que j'ai associé très vite en fait ce rôle politique et social de la mère des mères avec cet engagement écologiste.
Ce que vous racontez donc pour une écologie pirate aux éditions de la Découverte, la piraterie, la révolte, ce sont des mots de guerrière, ça. Hein,
oui.
Vous les assumez, vous les aimez ces mots-là?
Ah oui, absolument. Moi, Alors, c'est vrai que le champ lexical que je mobilise souvent, c'est un champ lexical quand même effectivement très guerrier, c'est la bagarre. Voilà, je ne rechigne pas à la bagarre. Je pense aussi qu'il faut passer la deuxième et que voilà, il faut se confronter en fait. Il faut être dans une forme de lucidité par rapport au rapport de domination et se dire qu'on ne va pas sortir d'un système que je qualifie de colonial capitaliste comme ça, bon, sur la pointe des pieds et en douceur et encore une fois en arrondissant les angles. Moi, je pense qu'il faut y aller à fond. Il faut se confronter, oui, il faut, assumer ça.
Tout comme la déesse Athéna, déesse de la guerre, seriez-vous une fille de Zeus, Fatima Ouassak ?
Oh, le fille de Zeus, je ne sais pas, mais en tout cas, cette figure du dragon, ce n'est pas pour rien que je la mobilise, et puis la figure du pirate aussi. Oui, non, ces figures-là me conviennent très bien.
Allez, on se retrouve dans un instant, vous êtes notre invité au carré.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
On va vers là-bas ? Et ça serait bien de se mettre à deux. Genre, il y en a un qui tient le sac et l'autre la pince. Allez, c'est parti.
Tu vois, là, tu vas prendre des gants et tu vas chercher un 5 poubelles, t'as capté? Et tu vas venir ramasser avec nous.
Est-ce qu'on est payé?
Est-ce qu'on est payé pour faire ça à son âge? Il parle d'argent. Non, toi, t'es chaud, toi. Tu sais pas c'est quoi de ramasser pour le bien de tous? C'est pour toi plus tard, hein?
Demain, il y aura le même bordel.
Il y aura le même bordel. Ben, si tu ramasses, tu donnes l'exemple, il y aura plus ce bordel-là. Parce que toi-même, ils vont devoir ramasser, les voisins vont se dire non, on peut plus jeter. C'est le petit qui parle d'argent à 11 ans qui ramasse.
Voilà.
On fait ça ou pas?
Ok, vas-y.
Allez, donnez-lui des gants.
Extrait d'un reportage L'écologie en banlieue signé Antoine Lee. Ma cité va briller, Fatima Ouassak, vous qui êtes l'invité de la Terre au Carré. Est-ce que l'écologie populaire, justement, c'est par exemple ramasser des déchets ou est-ce que là, on est dans une sorte de caricature du sujet?
Oui, c'est une caricature. Ça sert pas à grand-chose. Alors, moi, j'ai rien contre ce type d'initiatives qui sont parfois portées, d'ailleurs, par vraiment des associations de quartier, des associations de maires, d'ailleurs. Mais voilà, on sait bien aujourd'hui que c'est pas ce qui va régler le problème. Aujourd'hui, ce qui règle le problème, c'est de remettre en question l'industrie agroalimentaire totale. Enfin, je veux dire, vraiment, ce qui est structurel et oui, c'est la manière de produire, en fait, et pas simplement, voilà, cette écologie des petits gestes, du tri, de la lutte contre le gaspillage, etc. Bon.
Vert Dragon, que vous aviez créé donc à Bagnolet, c'était de l'autodéfense féministe, des AMAP, des résidences d'artistes, de la cuisine, des salles de jeux pour les enfants, des séances de GIEC pour tous, des ateliers de réflexion. Qu'est devenu d'ailleurs Vert Dragon à Bagnolet? Parce que certains s'inquiètent de ne plus le voir exister.
Oui. Alors, ça a tenu 3 ans. Et alors nous, on a beaucoup mobilisé en fait les enjeux politiques parce qu'on a été très attaqués à l'époque par l'extrême droite pour voilà nous chasser de ce lieu. Voilà, vous pensez voilà ces femmes musulmanes, arabes, noires, etc. qui osent occuper un lieu de 1000 mètres carrés. Voilà, c'est inacceptable. Donc on a dû se battre. On est resté. Donc on a gagné. Mais tout simplement, voilà, c'était dans le cadre d'un quartier en rénovation urbaine et le lieu a été vendu. On nous a proposé un autre lieu alternatif, ce qu'on a accepté. Le lieu alternatif est en travaux. Et donc, on attend tranquillement, sagement, de pouvoir le réinvestir.
Donc, Vert Dragon, vous allez rouvrir la porte quand? L'année prochaine?
Bon, on espère, oui. L'année prochaine, la fin des travaux.
Qu'est-ce qui se passe alors en ce moment pour toutes les personnes qui s'étaient mobilisées à Bagnolet? Ça doit être assez démotivant, non?
Oui, mais en même temps, il y a des choses hein, qui s'organisent. Alors, c'est pas si démotivant si on marche un petit peu et qu'on va voir du côté du 19e, parce qu'il y a le Front de Mer qui a investi un lieu là-bas qui s'appelle La Fabrique. Et sur les mêmes thèmes, hein, l'écologie populaire, ces enjeux féministes dont vous parlez. parliez. Donc voilà, on existe dans le 19e, un petit peu plus loin, à Rennes, à Bruxelles. On essaie d'avoir des petits verres dragons un peu partout. Mais oui, on a bon espoir de retrouver le lieu à Bagnolet bientôt.
Votre actualité, Fatima Ouassak, c'est cet ouvrage « Terre et liberté, manifeste antiraciste pour une écologie de la libération, au lien qui libère ». C'est un collectif d'auteurs que vous avez réuni et c'est une collection. Donc ça, c'est le premier ouvrage. Et le message est clair, on le voit dès la couverture du livre. Ici, on sème des révoltes.
Oui, on assume complètement de s'inscrire dans des luttes. Voilà, pour nous, l'écologie, c'est avant tout lutter. Et donc, oui, effectivement, il y a cette dimension-là. Il y a la question de la libération. Vous l'avez lu tout à l'heure. Voilà, moi, je n'aspire pas à une écologie de la protection de la Terre. C'est bien une écologie de la libération.
Mais ça dit quoi, alors, justement ?
Alors, ça dit que voilà, il y a toute une partie de l'humanité qui ne peut pas protéger la Terre parce qu'elle n'y est pas, sur cette Terre ravagée, elle n'y est pas légitime. Et donc, il s'agit d'abord de la libérer d'un système capitaliste, d'un système colonial. Ça permet aussi d'inscrire cette écologie dans les luttes de libération anticoloniale, et ça permet aussi donc à des populations non blanches, immigrées, de venir avec cet héritage-là en écologie. Elles ne viennent pas sans rien. Et puis, c'est un petit clin d'œil aussi aux théologies de la libération en Amérique du Sud. C'est pas écologie de libération, mais écologie de la libération. Donc, c'est là que se trouve le clin d'œil. Parce qu'il y a cette dimension sacrée dans le rapport à la Terre, dans le rapport aux animaux non humains, dans le rapport à Dieu, dans le rapport à quelque chose de plus métaphysique qu'on aimerait aussi amener dans l'écologie qui manque à notre sens.
Ouais. Donc de nombreuses autrices et auteurs dans ce... Vous avez votre casting idéal un petit peu pour ce premier numéro, c'est ça ? Vous êtes fait plaisir ?
Ouais, carrément. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est fait plaisir et en même temps, il y avait cette idée d'amener dans l'écologie politique des personnes qui n'y sont pas, qui sont plutôt dans les milieux dits décoloniaux, sur les études postcoloniales, les milieux connus comme étant antiracistes, etc. En fait, c'est comme si on venait enrichir l'écologie de ces pensées-là, en fait. Et je pense notamment à Yala Nadia Kisukidi, qui est une philosophe spécialiste des questions postcoloniales. Je pense à Norman Ajari, qui est un philosophe spécialiste de ces questions décoloniales, de Frantz Fanon en particulier. Hamzat Boukhari, qui est un grand historien spécialiste de Sankara, Cabral. D'ailleurs, il écrit un texte sur Sankara et Cabral dans le livre. Voilà, c'est comment, en fait, bah justement, par rapport à cette écologie un peu rabougrie, bon, qui tourne un petit peu sur elle-même, pardon pour l'adjectif, ouais. Mais qui tourne un petit peu sur elle-même, qui est un peu verrouillée, c'est comment on amène du souffle, en fait, ce vent frais. En fait,
du souffle, du débat, de la controverse.
Absolument. Donc, encore une fois, on vient, c'est une écologie très critique, donc on vient critique. Il y a le texte de Malcolm Ferdinand, par exemple, bon, qui désingue un peu l'écologie majoritaire, c'est 10 points, 10 mécanismes, ouais. C'est une sorte de 10 commandements. Voilà, il faudrait imprimer, mettre en A3 un petit peu partout. Donc voilà, pour expliquer pourquoi on en arrive à cette écologie blanche, et lui, il explique bien ces mécanismes-là, et puis il dit comment déverrouiller tout ça. Donc effectivement, on vient critique, mais encore une fois, alors moi, qui me situe aussi dans le champ de l'écologie, moi je l'ai dit pour commencer, je suis une militante écologiste, j'accueille ça vraiment d'un bon œil, en me disant, bon, ça va, oui, ça va revivre.
Une écologie de la libération, Fatima Ouassak, au moment où toutes les politiques environnementales sur la planète reculent, est-ce que vous pensez vraiment que le mouvement peut gagner aujourd'hui, ou est-ce qu'on est inéluctablement dans une séquence qui va terrasser l'écologie ?
Ah, ben, on est dans un tunnel, ça c'est pas peu dire. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui. Notamment l'alliance là, qui est en train de se jouer entre le trumpisme et la géo-ingénierie, alors même qu'il y avait comme ça, c'était quelque chose de complètement cloisonné il y a encore quelques années. Là, on voit bien que les trumpistes et autres fascistes, on voit bien qu'ils se soucient de la question climatique en réalité et des conséquences du désastre climatique. On voit bien qu'ils se soucient de la question de l'eau, de la question des ressources en fait qui sont finies. On voit bien qu'il y a une prise en considération de la part de ces forces fascistes. C'est très très inquiétant. Ça monte en puissance. Voilà, il y a une montée en puissance aussi des fascismes en Europe. Mais voilà. Alors nous, on essaye de faire des choses. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a une dynamique comme ça. Il y a des mouvements qui se mettent en œuvre. Mais c'est sûr qu'on n'est pas majoritaire aujourd'hui.
Dans le livre, le texte de Sheila Sheikh, Réenchanter la terre damnée depuis Ramallah, la capitale administrative de l'autorité palestinienne, elle pose dans ce texte la question de la justice concernant le génocide, justement, et l'occupation illégale en Palestine. Pourquoi le droit européen et international échoue à produire quoi que ce soit qui ressemble à de la justice dans cette région du monde aujourd'hui ?
Alors malheureusement, le droit international n'échoue pas tant que ça, en réalité. C'est pas le droit international qui échoue, ce sont les gouvernements qui sont majoritaires, les puissances occidentales. C'est elles qui échouent à appliquer le droit international. Le droit international, vous l'avez bien vu, aujourd'hui, le président Netanyahou, il y a un mandat d'arrêt international contre lui. La CPI, elle a fait le job, je veux dire. Et elle parle de risque génocidaire aujourd'hui. L'ONU parle de risque génocidaire. Le droit international, en réalité, il est du côté du peuple palestinien. Et on peut s'appuyer sur le droit international aujourd'hui pour dénoncer le génocide. Non, ceux qui sont en dessous de tout, ce sont les gouvernants occidentaux qui continuent à être complices de l'État colonial israélien.
Mais qu'est-ce que ça dit
israélien
aussi de nos sociétés, de voir les bombes tomber tous les jours à Gaza, ces enfants, ces hommes, ces femmes qui sont sous le feu des bombes, face à cette horreur absolue? Qu'est-ce qu'on peut se dire aussi de nous-mêmes, au fond?
On prend un gros risque de d'autodestruction, moi je le pense vraiment, même psychique. Je veux dire, on a tellement grandi dans ces valeurs justement occidentales, progressistes, où quand même il y avait un horizon émancipateur. On allait vers toujours plus de mieux, de bien, de justice. Et là, tout à coup, on voit bien, en fait, dans le meilleur des cas, notre impuissance politique à justement éviter les massacres de gosses, parce que c'est ça qui est particulièrement dramatique dans ce génocide. C'est que
les enfants sont les plus touchés.
Bien sûr, c'est la majorité des dizaines de milliers de morts. Ce sont des enfants, donc ce qui est absolument injustifiable de tuer autant d'enfants et en tout cas se cacher derrière un droit de se défendre et de ce qu'on nous a rabâché après le 7 octobre 2023. Évidemment que ça tient plus du tout la route. Non, moi je pense qu'il y a ce risque pour nous qui vivons en Occident de voir toutes nos valeurs, ce qui nous tient un petit peu, ce qui fait commun en fait, complètement s'effondrer. Et en même temps, il y a aussi une forme, j'ose le dire, d'espérance en fait, de se dire, mais il y a aussi une résistance du peuple palestinien qui se bat pour libérer sa terre. Dans quelle mesure, voilà, c'est pas un mouvement aussi qui va nous transporter. En tout cas, moi, j'essaie de participer à ça.
Terre et liberté, manifeste anti-raciste pour une écologie de la libération. C'est donc au lien qui libère, Fatima Ouassak. Vous l'écrivez d'ailleurs. Cette lutte, c'est aussi pour vous une façon d'entendre des voix non blanches qui doivent s'exprimer dans le champ intellectuel. Est-ce que c'est un livre populaire, justement, ou pas?
Ah oui, alors d'ailleurs...
Ou est-ce que c'est un livre d'intellectuel pour des intellectuels?
Alors, c'est un livre...
On peut se poser la question en le lisant.
Ah d'accord, ok, bon, je note. Non, c'est un livre d'intellectuel. Ça, c'était quelque chose qui était important pour nous. Par exemple, voilà, on parlait à l'instant de la Palestine. Il y a le texte qui est signé par Omar Al-Soumi qui parle de la question palestinienne et de ses horizons. Vers quoi on pourrait aller pour se sortir, en fait, de ce qui se joue, de ce génocide, de ce drame en Palestine. Il y a, comme ça, les collectifs Vietnam Dioxine, les collectifs A4, qui écrivent.
Oui, je vous parle de l'accessibilité, en fait, du propos.
Vous trouvez que c'est peu accessible?
En tout cas, je trouve... ce sont des penseurs de la question, donc évidemment avec toutes les qualités intellectuelles que peuvent représenter des écrits comme ça, mais vous qui travaillez aussi dans les quartiers, est-ce que c'est un livre qui pourrait être mis entre les mains de tout le monde? C'est une question toute simple.
Alors, oui, mais c'est un livre. Moi, je ne voulais pas qu'on ait un sous-livre. Où tout à coup, en fait, on appauvrit le champ lexical, on appauvrit la pensée, etc., sous prétexte de se rendre plus accessible. Mmh. Mais bon, c'est même pas efficace, en plus, ça marche même pas ce truc-là. Non, nous, on assume de devoir travailler, y compris dans le champ intellectuel, d'arriver avec nos gros sabots, avec nos pensées, parce que c'est pas rien. Je pense notamment au texte de Norman Ajari, effectivement, qui s'appuie sur Guattari, Félix Guattari et Frantz Fanon. Guattari et Frantz Fanon, je veux dire, c'est la puissance, c'est la lumière, c'est la subtilité, c'est la complexité. Il est hors de question de niveler par le bas et puis d'appauvrir tout ça. Non, il y a du niveau dans le livre et on le revendique.
Et c'est le premier donc de cette collection Au lien qui libère, Terre et liberté, manifeste antiraciste pour une écologie de la libération. Fatima Ouassak, c'est sous votre direction. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui.
Merci à vous, merci pour cette invitation.
Dans la Terre au carré, et on passe à vos messages. On termine comme tous les jours avec le répondeur.
Je m'appelle Patricia et j'habite à Afoula, en Israël. Je suis écologiste et quand j'écoute ce monsieur qui m'explique qu'il y a des plastiques et bien d'autres choses dans l'eau, des pesticides, au moment où on lui demande ce qu'il boit, ce monsieur explique qu'il boit de l'eau en bouteille. Franchement, tout ça pour ça, quoi. Il aurait mieux fait de dire « je tiens à me taire sur cette question ». Franchement, vous nous sapez le moral et en plus, vous donnez aucune solution à rien. Allez, bye bye.
Oui, bonjour, c'est Fanny qui habite à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Ouais, hier, j'ai entendu les réactions indignées de vos auditeurs après l'émission sur la pollution des eaux. Et selon moi, c'est le produit d'un biais cognitif. Hein. L'intervenant, il a parlé d'eau en bouteille. Mais c'était, il n'a pas précisé si c'était en plastique ou pas. Hein. Il a peut-être les moyens d'en trouver en verre, donc on ne sait pas. Donc attendre avant de s'indigner. Et quand bien même ce monsieur, il achète des bouteilles en plastique, c'est un spécialiste de la pollution de l'eau. Il a bien expliqué que même l'eau de pluie, elle est contaminée. Donc s'il boit de l'eau en bouteille plutôt qu'au robinet, c'est qu'il a une bonne raison. Hein. C'est évident qu'entre deux mots, il a choisi le moindre. De plus, c'était en fin d'émission, il n'a pas eu le temps d'expliquer son choix. Je suis sûr qu'il l'aurait fait, d'ailleurs, il faudrait le recontacter pour ça. Voilà, moi je voulais dire que moi aussi, à mon petit niveau, je suis sensible au problème de l'eau. Hein. Il y a longtemps que je prends plus de bain ni de douche, que je rationne l'eau des toilettes et que j'attends la pluie pour laver ma voiture. Hein. Alors, dans mon petit bled d'origine, au pied des montagnes, je bois de l'eau du robinet, parce qu'elle vient de la même source que le torrent qui passe près de la maison. Mais en région parisienne, je sais depuis longtemps que l'eau du robinet, elle est hyper polluée par toutes sortes de choses. Enfin, ça fait des années qu'on entend parler de pesticides et de médicaments. Hein, alors, moi aussi, depuis quelques années, j'ai choisi de boire de l'eau en bouteille. Ça me fait plaisir d'entendre qu'un spécialiste y fait la même chose, d'ailleurs. Au moins, celle-là, on peut la choisir. À bientôt. Merci pour vos émissions.
Bonjour la Terre au carré, Hélène de la Vallée d'Aspe. Pourriez-vous, s'il vous plaît, arrêter de généraliser les agriculteurs et agricultrices? Ce ne sont pas les agriculteurs et agricultrices qui s'opposent au retrait des néonicotinoïdes, des pesticides et des herbicides. Ce sont des agriculteurs syndiqués à la FNSEA ou à la coordination rurale. Je suis agricultrice et je suis absolument contre la réintroduction des néonicotinoïdes. Je suis agricultrice et je suis dans une démarche écologiste. Je suis agricultrice et je me considère faire partie d'un environnement naturel que je respecte et qui me fait vivre. Donc merci d'arrêter de parler des agriculteurs et agricultrices de façon générale. Ça devient insultant. Parler des syndicats, des lobbying qui font pression et qui manipulent une partie des agriculteurs et des agricultrices. Je suis agricultrice et le respect de l'environnement, de la terre est complètement intégré à ma profession. Merci pour votre émission.
Bonjour la Terre au carré, je m'appelle Perrine et je m'adresse à tous les habitantes et les habitants de la métropole de Montpellier pour vous annoncer la tenue d'un festival des alternatives écologiques, Festival Terre, ce dimanche 25 mai au parc Bocaux à Jacou à partir de 11h. Festival Terre, c'est une journée avec des associations locales qui œuvrent pour la transition écologique, la préservation du vivant et qui luttent contre le dérèglement climatique. Association vertueux en un seul mot. Merci.
Salut la Terre, salut Mathieu, salut à toute l'équipe. C'est Clément de Vesoul. J'hésitais un peu avant d'appeler parce que j'écoute l'émission en podcast et là je voulais réagir à l'émission du 9 mai. Et je voulais dire merci la Terre de nous mettre mal à l'aise avec nos contradictions. Je réfléchis de plus en plus, ma consommation de viande a largement diminué. Mais j'ai pas encore franchi le pas de l'arrêt complet, donc merci la Terre de nous faire avancer.
Et merci surtout pour vos messages qui eux aussi nous font avancer. 01 56 40 45 45. Si vous voulez nous appeler pendant le week-end, vos messages seront diffusés à partir de lundi. Merci à Figaro Frélon Le Floch qui a réalisé cette émission et Anna Massardier qui a préparé aujourd'hui le dossier avec Fatima Wassak.